que ces femmes, toutes de la même classe d'âge, se soient égarées, se soient suicidées, même à la limite, on devrait les retrouver. Or, on ne retrouve jamais. Donc, c'est très inquiétant. Je n'irai pas, cet an prochain, me promener à Boscodon, parce que j'ai un peu peur.
Bonsoir, on les appelle les disparus de Boscodon, du nom de cette immense forêt des Hautes-Alpes, au cœur de laquelle se niche depuis le XIIe siècle une abbaye. Un paysage grandiose et bucolique qui, depuis une quinzaine d'années, semble être marqué du sceau de la malédiction. Les disparitions successives de randonneurs dans le secteur, pas moins de 4 ces 6 dernières années. Un homme et plus particulièrement 3 femmes, dont les profils se ressemblent étrangement, des promeneurs, disparu sans avoir laissé aucune trace, des personnes comme englouties par l'épaisse forêt, sans bruit et sans témoin, alors qu'elles arpentaient tranquillement un sentier de randonnée. Accident, comme semblent le privilégier les autorités qui avancent aussi de possibles suicides, ou bien tout simplement crime, comme le croient certains proches. Un rôdeur qui aurait fait de ce coin de montagne sauvage un terrain de chasse idéal. Avec nos invités, nous allons voir ce soir pourquoi cette dernière hypothèse, même si elle apparaît spectaculaire, ne peut pas être totalement écartée. Il va nous falloir pour cela refaire le chemin emprunté par ces randonneurs avant qu'ils ne soient enveloppés par le néant.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, les disparus de Boscodon, ces randonneurs jamais ressortis des 900 hectares de cette forêt des Hautes-Alpes, dans le massif de Morgon. Mystère qui commence véritablement au printemps 2015. Ce dimanche 31 mai 2015, jour de la fête des mères, Monique Thibert, 65 ans, quitte son village de Hauteville-Lompnes pour prendre la route à bord de sa Toyota. Direction les Hautes-Alpes, la région d'Embrun. Elle doit y retrouver dans un gîte une bande d'amis pour une semaine de balade et de randonnée dans cette région qu'elle connaît bien. Monique Thibert, qui a eu 3 filles et a perdu son mari, est une retraitée sportive qui fait plus jeune que son âge, une marcheuse chevronnée, une bonne skieuse et une femme active impliquée dans de nombreuses associations, élue au conseil municipal. Après une route tranquille et une nuit passée à Embrun, Monique et ses 5 amis décident le lundi 1er juin d'arpenter un sentier qui mène au sommet du Grand Morgon, au-dessus du lac de Serponçon. Un itinéraire bien connu des promeneurs, pas forcément dangereux, mais qui demande toutefois une bonne condition physique. Le groupe garde sa voiture non loin de l'abbaye de Boscodon, marche sans encombre jusqu'au sommet pour y déjeuner, puis décide de rentrer. Le même parcours en sens inverse. Monique, survêtement Adidas noir, t-shirt à manches courtes et casquette rouge, marche en tête. Elle est trop loin pour savoir que le groupe a fait derrière elle une halte. Il est 14h30, le temps est idéal, elle continue à marcher. On ne va plus la revoir. Parvenue au parking du Grand Clos, le groupe de randonneurs a la surprise de ne pas y retrouver Monique. Son téléphone ne répond pas. Aucun promeneur qui débouche alors du chemin ne l'a aperçu ou n'a trouvé quoi que ce soit sur le trajet. La gendarmerie de haute montagne est alertée. Les premières recherches, interrompues à la nuit, ne donnent rien. Elles reprennent le lendemain en présence des filles de la disparue accourues précipitamment dans la région. Un hélicoptère survole le secteur sans repérer quoi que ce soit. Des volontaires, parmi lesquels une équipe de pompiers de Hauteville-Lompnes, la commune de Monique Thibert, se joignent aux recherches, mais la densité de la forêt, ses escarpements, ne facilitent pas leur tâche. La disparue était une femme parfaitement bien dans sa peau, nullement dépressive, pleine de projets. Autant dire que la thèse du suicide n'est pas retenue. Les gendarmes pensent évidemment à un accident, mais dans ce cas-là, comment expliquer que Monique est dévissée au point qu'on ne retrouve rien d'elle et qu'on ne puisse même pas géolocaliser son téléphone. Il apparaîtra plus tard que le chien de recherche Saint-Hubert, amené sur place, a suivi une piste que la retraitée n'aurait pas dû emprunter alors qu'elle connaissait parfaitement les lieux. Bonsoir Annie Cobert.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Vous êtes la sœur de Monique Thibert, dont on vient de raconter la disparition. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir cette invitation à l'heure du crime. Alors, dès le départ, Annick Aubert, vous et les filles de Monique, vos nièces, vous écartez vraiment la piste de la disparition volontaire. Pourquoi vous l'écartez, cette piste?
On l'écarte complètement parce que Monique n'était pas du tout suicidaire, ni fugueuse, ni d'envie de partir. Elle a 7 petits-enfants, donc 3 filles, je dirais. Elle est attachée à sa famille, elle était dans des milieux associatifs, elle était au conseil municipal d'autres villes. C'était pas du tout dans son caractère. Et dans... Non.
Alors, elle n'est pas suicidaire, on le comprend bien. Un accident, vous pouvez tout de même l'envisager, cette hypothèse ?
Bah, écoutez, c'était pas dans son... Elle ne cherchait pas le danger. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui allait se mettre en danger. Hein. Il n'y a pas de quoi dangereux. Ce n'est que bon qu'il y ait des falaises. Mais bon, il faut vouloir déjà aller au bord des falaises. Ouais, il faut chercher de la dangerosité. Après, est-ce qu'elle s'est un petit peu écartée, peut-être, pour, je sais pas, pour faire pipi, je sais pas. Nous, on est vraiment... On n'a rien. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Hein. On ne la revoit plus, oui, parce que en fait, en bas du pic du Morgon, il y avait des personnes qui étaient assises là et qui ne l'ont pas vu passer. Donc, si elle a disparu, c'est dans un endroit bien précis. Mais bon, là, on va peut-être refaire des recherches. Hein, il y a des choses assez précises. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu passer. Donc, entre le moment où elle a disparu, il va falloir qu'on ratisse de nouveau... là-haut.
Il va falloir effectivement que vous repartiez sur place, c'est ce que vous nous dites ce soir dans l'heure du crime. Alors Annick Aubert, évidemment, on peut pas ne pas en parler. Il y a cette hypothèse qui est sans doute la plus sombre, c'est celle de la mauvaise rencontre, la piste criminelle. Est-ce que vous y pensez en famille ou pas du tout ?
Ah oui, y a peut-être quelqu'un là-haut, un serial killer qui fait... Je sais pas, parce que c'est quand même... Si vous regardez bien les personnes qui ont disparu, c'est quand même des personnes qui sont toutes les trois bien ressemblantes, hein, parce que même moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit on dirait des sœurs. Voilà, je veux dire, on est quand même interrogatif, là. C'est bizarre. Voilà, personne disparaît et on ne retrouve pas de corps. Donc, voilà.
Bonsoir Bernard Valézy.
Bonsoir Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien commissaire divisionnaire, vice-président de l'ARPD, c'est l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues. Et vous êtes le co-auteur d'un livre qui sort là dans les heures, dans les jours qui viennent. C'est Avis de recherche chez Masso Édition. Vous parlez d'ailleurs, il y a un chapitre qui est consacré d'ailleurs à ces disparitions du massif du Boscodon. Alors on vient d'écouter Annick, la sœur de Monique Thibert, qui résume finalement les pistes qui pourraient expliquer la disparition de Monique. On est là en 2015, on va voir que les événements qui vont survenir dans ce même coin de forêt vont se précipiter. Alors pour Monique Thibert, Bernard Valézy, après tout, on ne peut pas exclure un accident. Et ça ne serait pas le premier dans ce secteur escarpé.
Tout à fait. Il y avait eu des précédents. On parle souvent des 6 affaires de disparus de Boscodon. Donc, en 1995, 20 ans avant, on a vu la disparition de Lucie Manca-Crez, qui était une dame randonneuse aussi, comme Monique Thibert, qui avait 63 ans, qui était partie elle aussi avec des amis et qui avait disparu alors qu'elle randonnait. Mais par contre, elle, son corps avait été retrouvé le lendemain. Ce qui va être différent par rapport aux autres affaires qui vont se passer après, avec Monique Thibert, Marie-Christine Camus et autres, c'est qu'ensuite on ne retrouve pas les corps. Et ça, c'est particulièrement troublant. Oui. Étonnant, puisque les gendarmes ont à chaque fois mis des moyens importants. Si on reprend, par exemple, mais c'est vrai pour toutes les autres affaires, l'affaire de Monique Thibert, c'est des survols en hélicoptère. C'est l'intervention de véhicules 4x4, c'est l'intervention du PGHM, des CRS montagne, des survols par drone. Donc tous les moyens ont été mis. Et si elle avait chuté dans un endroit à proximité du chemin, je pense qu'on aurait pu retrouver son corps.
Il y a effectivement beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Je voudrais que vous nous disiez un mot, Bernard Valézy. Moi, ça m'a un petit peu intrigué en regardant les résultats de l'enquête et les papiers qui sont sortis. C'est la piste du chien, là, du Saint-Hubert, qui prend une autre direction, alors que finalement, cette randonneuse, elle connaît bien le secteur. Et puis, elle a fait le voyage aller, si je puis dire. Elle fait le voyage retour dans des conditions tout à fait normales.
Alors, d'une part, c'est choquant que ce chien prenne une nouvelle piste. Les Saint-Hubert sont tout à fait fiables dans ce pistage de personnes. Et d'autre part, ce qui est étonnant, c'est que le chien s'arrête, marque l'arrêt à un endroit précis et ne redémarre plus. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, et sur ce point-là, on peut se demander s'il n'aurait pas été souhaitable à ce moment-là d'approfondir des recherches dans ce périmètre très réduit où le chien Saint-Hubert avait marqué l'arrêt.
Des questions, mais le parquet de Gap décide de clôturer rapidement l'enquête. Enquête close le 6 juillet 2015, un mois seulement après la disparition. Deux ans plus tard, le 5 décembre 2017, le tribunal de Gap rendra un jugement pour constater officiellement le décès de Monique Thibert, dont aucune trace n'a été retrouvée. Mais entre-temps, une autre femme s'est évaporée. Ce 25 décembre 2016, jour de Noël, Marie-Christine Camus, 62 ans, décide d'aller marcher dans la montagne toute proche. Cette femme, mince et brune, dont la silhouette rappelle étrangement celle de la disparue Monique Thibert, habite Embrun. Cette baroudeuse, qui a toujours été très indépendante, partage ici son existence avec Michel, son compagnon. Marie-Christine est familière des balades décidées à la dernière minute. Elle quitte la maison au volant de sa Fiat Panda grise, roule quelques kilomètres, passe devant l'abbaye de Boscodon et gare son véhicule sur le parking qui donne accès au massif du Morgon, la même zone où le groupe de Monique Thibert était parti en promenade. Personne ne se souvient alors d'avoir croisé Marie-Christine Camus, randonneuse solitaire, un jour de fête où de nombreuses familles restent chez elle. Dans la soirée, son compagnon essaie de la joindre en vain. Son téléphone ne répond pas. Il sera géolocalisé entre Embrun et Guillestre, un secteur plus au nord que la forêt de Boscodon. La disparition est signalée le 27 décembre. Les gendarmes explorent les endroits où aurait pu se rendre la promeneuse. Un hélicoptère survole les abords du lac de Serponçon. La voiture, la Fiat Panda, ne sera retrouvée que 5 jours plus tard, sur le bord d'une petite route, proche de l'abbaye de Boscodon. Le véhicule est verrouillé. Les clés ont été cachées sous une des roues, habitude de certains randonneurs. À l'intérieur, le sac à main de Marie-Christine avec ses papiers, sa carte bancaire, son chéquier et son téléphone portable, qui pourtant avait borné bien plus loin. Aucune trace de Marie-Christine Camus. Sa sœur Catherine n'est pas informée des avancées de l'enquête. Elle a un mal fou à savoir ce qui se passe. Le parquet de Gap ne répond pas à ses lettres recommandées. Catherine n'apprendra que bien plus tard qu'aucune connexion n'a été faite avec la disparition de Monique Thibert. Les investigations ne livrent aucune piste, aucune trace de cette promeneuse qui n'avait rien d'une suicidaire. 2 ans et demi après les faits, en mars 2019, la justice classe le dossier Marie-Christine Camus. 4 mois plus tard, le journal Le Dauphiné Libéré révèle qu'un religieux visé par des plaintes pour agression sexuelle pédophile séjournait à l'abbaye de Boscodon entre 2011 et 2017. Ce frère dominicain dévoyé était donc sur place quand les deux femmes ont disparu. Bernard Valézy, vous allez rester avec nous dans ce chapitre. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'ARPD, Association L'Assistance et Recherche aux Personnes Disparues, ancien commissaire divisionnaire. On a besoin de vos lumières là, et vraiment tout de suite. Parlons tout de suite de la piste de ce moine, de cet homme qui était logé dans ce monastère de Boscodon. Il n'y a pas eu de recherche là-dessus.
Alors, si vous voulez, dans cette affaire, il y a plusieurs inconnus, mais au niveau de l'enquête, on peut toujours se demander pourquoi les enquêteurs ne sont pas allés enquêter au niveau de l'abbaye de Boscodon, même si on fait abstraction de l'existence de ce moine-là, puisque le véhicule était retrouvé à proximité de cette abbaye, et donc c'était un élément important pour l'enquête de voisinage qui aurait dû être faite à cette époque-là.
Bien sûr, et que les premiers randonneurs, rappelons-le, étaient également garés sur ce parking, hein, qui devient un peu un épicentre des disparitions. Hein.
Tout à fait. Alors, la deuxième curiosité, c'est qu'il faut 5 jours pour retrouver la Fiat Panda de Marie-Christine Camus, alors qu'on est sur un sentier qui va de l'abbaye de Boscodon au parking du Grand Clos, et donc une zone où il y a suffisamment de passages. Et enfin, la dernière anomalie, je dirais, c'est le fait de retrouver le téléphone portable de Marie-Christine dans son véhicule, alors que normalement, une randonneuse seule va prendre ce moyen pour éventuellement aviser les secours s'il lui arrivait quelque chose.
Alors ça, ce sont des étrangetés. Est-ce qu'elles ont été creusées par les enquêteurs? Il y a ce téléphone qui borne un peu plus loin. Bon, à la limite, ça, c'est pas très étonnant. Les relais, parfois, sont un petit peu capricieux. Mais effectivement, le fait que Marie-Christine Camus boucle son véhicule, si c'est elle qui l'a bouclé, et part sans son téléphone, là, c'est vraiment curieux.
Tout à fait. Dans toutes les affaires de disparition, que ce soit l'affaire Camus ou d'autres, ce qui est important, c'est de tout ce qui concerne la géolocalisation et la téléphonie. Et dans toutes ces affaires-là, et nous le disons systématiquement au niveau de l'association, c'est un élément aujourd'hui capital de savoir où est passé le téléphone, où est-ce qu'il a borné, quels ont été les éventuels appels et éventuellement de geler les autres téléphones qui ont pu borner au même moment, au même endroit. Et on le voit dans l'affaire Le Landais ou dans l'affaire du caporal Noyer, c'est ce bornage des téléphones qui a permis d'avancer dans l'élucidation de l'affaire.
Mais est-ce que vous savez, Bernard Valaisy, si dans ces histoires de Boscodon, ce bornage a été effectué ou pas ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors dans cette affaire-là, donc il y avait une ignorance, vous l'avez rappelé, de la famille sur ce qui était le contenu de l'enquête. C'est pour ça qu'on a conseillé à la famille de prendre un avocat, de se constituer partie civile de façon à réactiver l'enquête, de façon à ce qu'un juge d'instruction soit nommé. Et aujourd'hui, il faut attendre que l'avocat puisse récupérer la totalité de cette procédure pour avoir des éléments complémentaires d'information.
Avoir accès effectivement au dossier, c'est la règle, avoir accès pour la partie civile au dossier. Est-ce que vous avez le sentiment, là, parlons cash, Bernard Valaisy, que finalement l'enquête, elle s'est un petit peu focalisée sur, disons-le, des accidents, des suicides, tout de suite, des accidents.
C'est le propre de beaucoup d'affaires, celle-ci parmi tant d'autres, où trop souvent, peut-être, les enquêteurs se font une idée de départ en disant c'est un accident ou c'est un suicide, attendons que le corps soit retrouvé et n'investiguons pas forcément à fond. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une enquête est clôturée, il faut peut-être relancer les procédures de façon à ce que des vérifications complémentaires soient faites.
La liste des disparus dans cette forêt des Hautes-Alpes est loin d'être close. En 2020, un homme et une femme vont également s'évanouir à l'abri des regards dans ce paysage et ne plus donner aucun signe de vie. Le 26 octobre 2020, dans la matinée, Cédric Delahaye, 41 ans, quitte en voiture son hôtel de Gap. Il emporte avec lui son sac à dos et son sac de couchage, parti pour effectuer une randonnée en montagne. Lui aussi a choisi d'arpenter la forêt de Boscodon. Il garde son véhicule sur le fameux parking du Grand Clos, dernier point de passage pour deux femmes jamais retrouvées. À partir de ce lieu précis, Cédric Delahaye, gabarit plutôt sportif, se volatilise à son tour sans laisser de traces. Les recherches le concernant ne vont rien donner. Cédric Delahaye sera parfois présenté comme un homme dépressif, laissant augurer pour les autorités un possible suicide. Exactement un mois plus tard, le 26 novembre 2020, Laurence Clam, 60 ans, quitte le hameau de Beauvillard à Croix, la commune sur laquelle est implantée l'abbaye de Boscodon, pour une marche en montagne. Laurence Bouilly, épouse Clam, connaît parfaitement l'endroit, elle y vit. Les recherches intensives menées par les gendarmes et de nombreux habitants du coin ne donnent rien. Un chien pisteur marque un passage dans le secteur du hameau de Marlès. 20 pompiers et 40 gendarmes vont alors quadriller cette zone en vain. Le nom de Laurence Clam, 1m64, portant un blouson en daim noir, rejoint alors la liste des disparus. Face à cette série noire, le procureur de Gap, Florent Crouy, interrogé par la presse locale, indique qu'il faut raison garder, en substance, garder des amalgames trop rapides. Il explique toutefois avoir fait une première analyse criminelle pour détecter d'éventuels liens entre toutes ces affaires. À cette liste de 4 disparus, le nom de Lucie Manca-Crez, 63 ans, partie à randonnée le 18 juillet 1995, dans ce secteur précis, est parfois ajouté. Son corps avait été découvert sans vie le lendemain de l'enquête et à l'époque, les enquêteurs avaient conclu à un accident. Rien donc de suspect dans cette toute première affaire. Bonsoir Maître Félix Allary.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocat des familles de ces deux derniers disparus, Laurence Clam et Cédric Delahaye. Vous faites également partie de l'association de Bernard Valaisy, l'association Assistance et Recherche des Personnes Disparues. Maître Allary, c'est dit sans être dit par le parquet de Gap, mais finalement on présente ces deux derniers disparus un petit peu comme des suicidaires.
Alors, les familles sont prêtes à tout entendre au niveau de suicides. On peut très bien considérer qu'effectivement, ces personnes-là ont pu se suicider. Sauf que, comme vous l'avez dit au début, où sont les corps ? C'est un gros problème. Pour le premier, Cédric Delahaye, qui a été porté disparu le 26 octobre, il y a quand même des éléments que nous avons portés à la connaissance de la gendarmerie, je pense que ça a été vérifié. Il a quand même mis beaucoup de temps pour partir de là où il était, c'est-à-dire de Gap pour monter au parking du Grand Clos. C'est un trajet qui se fait assez rapidement, il a mis près de plus de 2 heures.
Ah oui.
D'autre part, le chien Saint-Hubert, qui est un très bon pisteur, est allé jusqu'au bord d'une falaise. Alors on peut penser que est-ce qu'il ne s'est pas jeté dans le vide. Mais vous savez, pour se jeter dans le vide, il faut vraiment, vraiment être désespéré. Pour
oui.
être désespéré. Alors que le week-end qui a précédé, en fait, c'était là où il a disparu, c'était le lundi, bon, il n'y avait rien qui aurait pu penser. Alors, c'est vrai que parfois les gens se suicident alors qu'une heure avant, ils n'y pensaient pas.
Bien sûr.
Mais
bien sûr.
Là, c'est quand même un peu particulier, surtout qu'on a retrouvé son duvet sous l'autre versant de la montagne, le parapluie d'un autre côté. Actuellement, nous avons demandé à avoir la copie de la procédure, mais elle ne nous est pas encore parvenue. Son téléphone a disparu également. Alors, nous avons demandé à ce que des vérifications soient faites sur ce fameux téléphone. Est-ce qu'il n'a pas été retrouvé par quelqu'un et est-ce qu'il n'a pas été utilisé? Alors, ce sont des vérifications
qui,
si elles ne sont pas faites au début, c'est très difficile de les faire par la suite.
Maître, c'est une scène de disparition vraiment dans le désordre que vous nous décrivez. Effectivement, c'est très troublant, même si c'est une scène de suicide, pourquoi pas, c'est troublant. Puis un suicide, finalement, quand on sait si le chien a pisté près d'une falaise, on devrait retrouver tout de même le corps au pied de cette falaise, si le corps y était. Je voudrais que vous nous parliez, Maître Allary, de Laurence Clam. Alors elle, cette femme, qui est-elle qui s'en va comme ça en randonnée?
Laurence Clam, elle a la soixantaine, elle habite dans le hameau de Beauvillard, qui est dans la commune de Croix. Elle sort d'un centre de repos parce qu'elle a fait un burn-out quelques jours auparavant. Elle décide d'aller se promener le matin à 10h30 pour aller faire une balade, comme elle connaît bien le secteur. Au bout d'une heure, son mari ne la voyait pas revenir, commence à s'inquiéter, il se lance à sa recherche. Ensuite, il téléphone à la gendarmerie, les gendarmes déclenchent toutes les recherches. Cette personne aurait été vue sur un chemin vers l'abbaye de Boscolone. Tout ça, c'est dans le même secteur.
Bien sûr.
Le même secteur.
Tout à fait.
Elle n'avait pas de téléphone, parce qu'elle était habituée à se promener sans prendre son téléphone. Elle connaît bien le secteur. Pour Madame Clam, il y a deux chiens qui sont intervenus. Le premier chien s'est arrêté à hauteur du pont de Marquisa, qui est connu, et le deuxième chien est allé un peu plus loin et s'est arrêté après l'abbaye de Boscodon, près d'un hameau. Et là, le chien s'est complètement arrêté. Cet endroit, si elle s'était suicidée, on aurait retrouvé le corps.
Bien sûr.
Parce que c'est un endroit boisé, mais c'est pas au bord d'un précipice.
Donc,
on peut supposer qu'elle a fait une mauvaise rencontre ou qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait avec qui elle est montée, sous prétexte de revenir chez elle. On peut tout supposer. Je pense que le procureur de la République, lorsqu'il dit qu'il a fait une analyse criminelle, c'est-à-dire qu'il a transmis toutes les données des 4 ou 5 dossiers qu'il avait à un service qui est spécialisé pour les enquêtes criminelles pour faire des analyses. Oui. Sauf que si dans les précédents dossiers, il n'y a pas eu des données qui ont été saisies, l'ordinateur ne peut pas les ramener.
Oui, évidemment, les rapprochements vont être difficiles, mais en tout cas, c'est un premier pas, on peut dire, du parquet de Gap qui a envie quand même que peut-être de regarder ailleurs que la thèse des suicides ou des accidents. Et justement, Bernard Valézy, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. On a aussi évoqué, il faut en dire un mot quand même, l'hypothèse Nordal-Lelandais dans ses disparitions, parce que c'est un homme de la région, c'est quelqu'un qu'on sait qu'il aimait se balader notamment avec ses chiens. C'est un nom qui est sorti un moment dans les discussions.
Alors, si vous voulez, la piste de Nordal-Lelandais, c'est une piste qui a été reprise dans de nombreuses disparitions qui ont eu lieu sur la région Rhône-Alpes élargie. dans ces affaires de Boscodon, on ne pouvait pas l'éliminer puisqu'on était à 150 ou 200 kilomètres de Chambéry, avec une personne qui peut être agressive, qui a l'habitude de fréquenter assidûment les forêts. Donc c'est une piste qu'il faut exploiter. Mais comme d'autres, je veux dire, c'est une piste qu'on ne peut pas ignorer dans toutes ces affaires-là. Et c'est quelque chose d'important de ne pas exclure. Le problème dans toutes ces affaires, c'est de partir sur une hypothèse, suicide ou accident, de s'y tenir et en éliminant ainsi toute investigation qui pourrait aller vers des pistes qui seraient celles d'un tueur ou d'un agresseur divers. Et c'est important de tout explorer. C'est ce qui peut-être dans ces affaires-là n'a pas été fait.
Dans tous les cas de figure, la forêt de Boscodon prend de plus en plus l'allure d'une espèce de triangle des Bermudes en haute altitude. Un endroit d'où on ne revient pas, un cas de figure suscitant de plus en plus d'interrogations et d'inquiétudes. Au total, depuis 25 ans, ce sont 6 personnes qui se sont évaporées dans le secteur de l'abbaye de Boscodon. Difficile d'établir s'il s'agit d'accidents, de suicides ou le résultat de mauvaises rencontres sur ces chemins isolés. Pour les 4 derniers cas, les autorités sont réticentes à avancer l'hypothèse criminelle. Concernant ainsi la dernière victime, Laurence Klamm, le capitaine Zeisser de la compagnie de gendarmerie de Briançon, précise qu'il ne ferme aucune porte tout en indiquant « Peut-être que cette personne est partie ailleurs pour couper les ponts. 200 personnes ont été dépêchées sur place. Si elle avait été là, on l'aurait retrouvée. » Le maire de la commune de Crot, au cœur de la zone des disparitions, reconnaît que ses administrés s'interrogent sur le fait qu'on ne retrouve aucun corps, surtout avec les moyens modernes de recherche. Jean-Pierre Gandois demeure sceptique sur une série d'accidents. « Mon rôle est aussi de rassurer les gens et d'éviter qu'une psychose s'installe. » J'ai quand même conseillé aux gens d'éviter de se promener dans la forêt seule, surtout en cette période, on ne sait jamais, le maire ajoute. La crainte, c'est qu'il y ait dans cette affaire une intervention de quelqu'un de malveillant. Boscodon et son abbaye attirent chaque année des milliers de visiteurs. Un endroit depuis toujours réputé pour son calme, avec ses forêts cathédrales où les plus grands arbres dépassent 50 mètres de haut, mais où aujourd'hui le doute règne en maître dans ce paysage magistral. Maître Félix Allary, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat des familles des 2 derniers disparus, celle de Cédric Delahaye et Laurence Klamm. Je citais le gendarme de Briançon qui mène l'enquête. Il dit « on l'aurait retrouvée », en parlant de Laurence Klamm, « on l'aurait retrouvée si elle était là ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si elle avait voulu se donner la mort à l'endroit où le chien s'est arrêté, effectivement, on l'aurait retrouvée. Si on ne l'a pas retrouvée, c'est que soit elle a été prise par quelqu'un, elle a été embarquée par quelqu'un, ou, c'est ce que je vous disais, une mauvaise rencontre, c'est fort possible. Maintenant, une fugue volontaire, enfin un départ volontaire, elle n'avait pas pris d'argent, elle n'avait pas pris de téléphone, vous savez, ça s'organise quand même, un départ volontaire comme ça.
Ça vous n'y croyez pas, la famille n'y croit pas, son mari n'y croit pas.
Il préférerait que ce soit ça, si on peut dire. L'important, c'est de... Le plus dur de ces disparitions, c'est de ne pas savoir. C'est ça qui est le plus douloureux pour les familles. Et le procureur de la République de Gap a pris l'initiative de convoquer les deux dernières familles le 19 mai pour expliquer un peu et nous espérons avoir peut-être des réponses aux questions que nous nous posons.
Bien sûr. Alors justement, Maître Allary, qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous avec le procureur de Gap ? C'est un peu une première parce que jusqu'à présent, on peut le dire, la justice s'est tenue loin des familles des disparus.
Oui, tout à fait. Là, je pense que c'est ce que je disais. Le procureur a pris la mesure de la situation, en demandant une analyse criminelle de tous les dossiers, et puis a pris l'initiative de convoquer les familles. Donc, nous espérons aussi qu'il va nous donner l'autorisation d'avoir accès aux deux dossiers pour qu'on puisse vérifier si toutes les hypothèses ont pu être envisagées, qu'il n'y ait pas qu'une hypothèse, ou le départ, ou le suicide, ou comme ça, que toutes les hypothèses ont pu être envisagées. Moi, je pense que c'est une bonne c'est pas si mal que ça, si on peut dire que ce soit le même parquet qui soit compétent.
Oui.
Que ça permet un peu de faire les rapprochements. S'il y avait eu deux parquets, deux procureurs de saisie, c'était un peu plus compliqué. Alors que là, on pourra, j'espère, faire un rapprochement et voir si toutefois c'est l'œuvre d'une seule personne ou si c'est des accidents ou des suicides.
Bien sûr, c'est très important et c'est un rendez-vous effectivement qu'on va suivre de très près parce qu'il va donner un petit peu le tempo de cette enquête qui est peut-être en train d'ailleurs de changer d'inflexion. On sent qu'il y a un tournant nouveau là qui se dessine. Maître Allary, est-ce que selon vous, il faut reprendre les recherches? D'abord, est-ce qu'elles sont vraiment interrompues ou on continue de chercher?
Non, les recherches continuent parce que à l'initiative de M. Clam, il y a des recherches qui sont continuées. Et puis dernièrement, les gendarmes sont venus également avec des chiens pour refaire un peu le trajet. Pourquoi? Parce que la neige a disparu. Donc on peut essayer de relancer. Et normalement, ils ont prévu de faire des nouvelles recherches dans un ou deux mois. Et on espère que là, on pourra faire une battue générale pour essayer. Mais si les corps avaient été là, je pense que même les rapaces, les gens auraient vu quand même. Il y a les gars de l'ONF qui travaillent là.
Voilà.
Ça se repère quand même.
C'est une région où il y a des chasseurs, il y a des gens de la montagne, il y a des gens qui connaissent très bien les lieux, les habitudes des lieux. Et effectivement, quand la nature est dérangée, on le voit très vite. Bernard Valézy, ancien commissaire divisionnaire et puis vice-président de la RPD, l'association L'Assistance et Recherche des Personnes Disparues. Est-ce qu'il faudrait élargir ces investigations, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, aux délinquants possibles qui pourraient œuvrer dans le secteur, si je puis dire?
Oui, je pense que c'est une démarche qu'il faut faire systématiquement et pas uniquement, je m'excuse d'élargir un peu, mais pas uniquement sur les disparus de Boscodon, parce que très régulièrement, on a des randonneuses qui disparaissent et on s'aperçoit que les enquêtes sont clôturées peut-être trop rapidement. Simplement deux cas que je cite dans le bouquin, c'est Georgette Bonnet qui disparaît, elle aussi une randonneuse qui disparaît à la Chapelle du Bar. Le 9 septembre 2016, dans des circonstances un peu identiques, elle va chercher des myrtilles, elle a 80 ans, elle ne peut pas marcher facilement, et on ne retrouvera jamais son corps. Et puis un autre cas qu'on cite, c'est celui d'Anne-Marie Arnal, qui disparaît, elle, le 15 octobre 2016, là encore, sur le chemin botanique de Sospel, plus au sud, où là encore, c'est un chemin qui est facile d'accès, elle disparaît et on ne retrouve, là encore, jamais son corps. Ça pose quand même des problèmes et on peut se demander si en l'absence de découverte de corps, il n'y a pas autre chose peut-être à rechercher.
On peut effectivement s'interroger et ce soir sur RTL, on est là pour donner effectivement un coup de projecteur à cette affaire dont on n'a pas assez parlé, je pense, parce que c'est une affaire qui est en train effectivement de changer d'allure en matière d'enquête. On va retrouver Annick Aubert, la sœur de Monique Thibert, qu'on a eu en ligne en début d'émission. Vous êtes donc la sœur de Monique Thibert, l'une des disparues de Boscodon. On vient de parler de cette enquête qui tout de même continue, où les gens s'agitent, etc. Annick Aubert, est-ce que vous voulez profiter ce soir finalement de notre antenne de RTL pour lancer un appel à témoins dans l'affaire de votre sœur?
Bien sûr, si ce 2 juin 2015, quelqu'un se rappelle d'avoir vu Monique, sa casquette, sa gourde, son sac à dos, son caméscope, enfin tout ce qu'elle avait sur elle, parce que bon, des fois on se souvient pas tout de suite de quelque chose, mais bon, ne pas hésiter soit à nous joindre, et puis aussi l'association ARPD, on peut les appeler, et si on voit des choses et on a des choses à dire, il faut pas se gêner, je veux dire, c'est vraiment une association qui est vraiment sympa et bien, et qui entoure bien, nous entoure bien.
Une association qui vous entoure bien. On donnera d'ailleurs toutes les coordonnées de l'association et des contacts possibles sur la page de l'émission L'Heure du Crime. Merci beaucoup Annick Aubert, merci beaucoup Bernard Valézy et puis Maître Félix Allary d'avoir été ce soir les invités de L'Heure du Crime avec les disparus de la forêt de Boscodon. Une énigme non résolue qui n'a sans doute pas fini de mobiliser les imaginations et les enquêteurs. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard pour la préparation de l'émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.